Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B, c'est parti. Avec au menu aujourd'hui l'info du jour, les chiffres choc de la Civise, commission sur l'inceste. Interview pour annoncer deux fêtes qui ont en commun d'être engagées et de défendre une agriculture durable. De la musique dont une nouveauté, un reportage avec la troupe de la cloche, la chronique de la CIMADE et puis une recommandation de portes ouvertes. C'est parti, bienvenue dans la reine. Comme chaque jour, on commence avec l'info du jour, une info retenue pour vous, souvent d'ordre local. Là, elle est nationale, mais concerne toutes les régions. Il s'agit de la Civise, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui vit ses derniers mois en ce moment. Son mandat prend fin en décembre, mais la commission et des personnalités réclament son maintien. Et c'est le moment de donner quelques chiffres qui montrent l'ampleur du problème de l'inceste. La Civise, elle a reçu 27 000 témoignages depuis son lancement en 2021. Une victime sur cinq déclare avoir saisi la justice des faits subis. 8% seulement des victimes disent avoir reçu un accueil positif de leurs confidents ou des autorités. Enfin, 13% des plaintes ont abouti à une condamnation de l'agresseur. La Civise en profite aussi pour évoquer l'impact lourd et durable des faits incestueux sur la victime. 40% d'entre elles souffrent en effet d'addiction à la drogue ou à l'alcool. La moitié a développé des troubles du comportement alimentaire. Et le coût financier des violences sexuelles faites aux enfants, notamment en termes de santé, eh bien il s'élèverait à 10 milliards d'euros par an. 10 milliards. Cette commission, la Civise, elle a mené un travail à travers la plateforme civise.fr, également lors d'entretiens par téléphone, mais aussi sur le terrain, en région. J'avais rencontré le coprésident de la commission, le juge pour enfants Édouard Durand, lors d'une rencontre publique organisée à Rennes au mois d'avril. Je vous propose de réécouter un extrait du reportage qui avait été consacré. Attention, certains propos sont durs à entendre.
Bonjour. Tombé sur ce problème d'inceste en 2021. J'étais enceinte de ma deuxième fille, pas du même papa. Et j'avais déjà eu des problèmes avec le papa de ma fille, donc qui a aujourd'hui 8 ans. Notamment, j'avais prévenu les services sociaux parce que il dormait nu avec elle. Bon, j'avais déjà été à la gendarmerie pour mettre plusieurs mains courantes aussi parce qu'il la giflait, elle était terrorisée d'aller chez lui. Et la gendarmerie de mon quartier m'a dit « Madame, on n'est pas là pour éduquer votre mari ». Donc je savais plus trop vers qui me tourner. Je suis partie quand ma fille avait 4 mois. Parce qu'il me frappait. Et puis, là, en 2021, elle me reparle d'une chose. Elle me dit, parce qu'elle ne l'appelle pas papa, hein, elle l'appelle en fait, il continue de dormir tout nu avec moi, et j'aime pas. Et en plus, je vois tout. C'était le cauchemar qui commençait, on va dire, parce que à chaque fois, il y avait des détails. Et ça n'a pas été facile pour moi de porter plainte contre lui, parce que je savais à quoi ça m'engageait. Donc j'ai été voir une juriste. Et bon, j'ai porté plainte. Et j'ai accouché de ma deuxième fille le 23 février 2022. J'étais inquiète pour ma fille, parce qu'elle était venue voir sa sœur le jeudi. Et le vendredi soir, elle devait partir pour une semaine de vacances, parce que j'avais porté plainte. Mais je l'avais donné cette semaine de vacances, où j'allais porter plainte, je ne sais plus, bref. J'en étais malade et j'aurais jamais dû. Parce qu'au retour de cette semaine de vacances, elle avait mal aux fesses. J'étais encore du trop te retenir pour aller aux toilettes. Va aux toilettes, des fois ça lui arrive. Le lendemain, elle recommence. On a été chez le docteur, dans les toilettes. Quand j'ai réessayé de lui faire son prélèvement urinaire, elle hurlait dans les toilettes du docteur. Puis j'ai dit, Victoria, t'es sûre que t'as pas touché, qu'il t'a pas. Et c'est là qu'elle a avoué. Ensuite, lui, à chaque fois maintenant, il porte plainte. Donc j'ai XX plaintes. Donc il demande la garde exclusive. Éventuellement un droit de visite pour moi.
La Civise, elle a été lancée en 2021. Comment est-ce que le juge pour enfants, le juge des enfants que vous êtes, traverse ce moment-là depuis 2021?
Cette expérience est une expérience
magistral pour le juge des enfants que je suis, parce que ces témoignages sont extrêmement structurants. Ils me font chaque fois me demander si, lorsque j'étais avec des enfants en audience, j'ai été capable de me représenter la réalité de leur existence, les violences qu'ils ont subies pour de vrai au moment où ils les vivaient, à mesure que j'écoute cette parole des adultes qui disent toute l'horreur des violences sexuelles faites aux enfants. Et c'est aussi l'occasion d'interroger le fonctionnement social sur le plan judiciaire, sur le plan des soins, sur le plan de la protection de l'enfance, toute la chaîne d'intervention des professionnels qui doit être renforcée pour que la chaîne de la protection soit plus solide, pour qu'un enfant se sente en confiance auprès des adultes, pour révéler les violences quand il les subit et pour qu'il soit mis en sécurité immédiatement.
Et l'un des premiers blocages que vous dénoncez, c'est à la fois qu'on ne croit pas toujours l'enfant et que quand celui-ci en parle souvent à sa mère, on ne croit pas la mère non plus.
Non, les mères sont face à une injonction paradoxale, extrêmement cruelle et profondément injuste. Si elles ne disent rien, on les accuse de complicité. Si elles disent quelque chose, on les accuse de manipulation. Et cette injonction paradoxale faite aux mères protectrices de leurs enfants montre bien que la société hésite à sortir du déni des violences sexuelles faites aux enfants et à entrer de façon volontaire dans ce qu'on doit appeler une culture de la protection. L'histoire des violences sexuelles faites aux enfants, c'est l'histoire d'une invisibilisation.
Voilà pour l'info du jour. Je redonne le site pour accéder à la plateforme de la Civise, civise.fr. Voilà, pour trouver plus d'informations sur cette commission indépendante, on le redit, et dont le travail est salutaire. Allez, à présent, c'est l'heure d'une interview croisée. Alors, on a du monde aujourd'hui en studio pour une interview croisée. On va annoncer des fêtes qui sont prévues dans la région rennaise, dans le champ de l'agriculture durable. Olivier Bertin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des associés du GAEC Biotope, une ferme qui fête ses 10 ans samedi 30 septembre à Vignoc. Et juste à côté, on a Antoine et Maria, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans l'équipe qui organise la fête des récoltes à Vezin, le Coquet. Ça, c'est le week-end prochain, samedi 23 et dimanche 24 septembre. On va commencer avec vous. Vous venez de deux structures différentes. On commence avec le réseau de ravitaillement des luttes du Pays Rennais, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans l'arène, puisqu'il a notamment été très actif pendant la crise sanitaire. On redit sa mission à ce réseau, c'est globalement de soutenir les mouvements sociaux dans la région rennaise. C'est bien résumé ?
Oui, c'est pas mal résumé. Bah, en gros, ce soutien-là, c'est par la production, enfin par le soutien, c'est du soutien alimentaire. Du coup, on a trois axes au réseau de ravitaillement. Il y a un axe cantine, du coup, qui sert à ravitailler les différents mouvements sociaux, comme la réforme des retraites récemment.
On vous croise en manifestation.
Oui, régulièrement. On est aussi des soutiens des soulèvements de la terre. On couvre les événements avec des cantines. On fait des distributions solidaires tous les vendredis à la ferme de la Harpe. Et aussi, du coup, on a ce champ à la ferme en cavale à Vezin-le-Coquet, sur laquelle on a notre propre production, qui, elle aussi, sert à ravitailler nos luttes, nos cantines notamment.
Vous sauriez me dire combien vous êtes de membres investis au réseau de ravitaillement des luttes du Pays Rennais ? Ça doit bouger.
Ouais, c'est assez fluctuant. Bah, je dirais qu'on tourne autour d'un noyau dur d'une dizaine, quinzaine de personnes, je pense. Comme ça.
Le travail qui se cache derrière votre collectif, c'est donc surtout la récupération d'invendus auprès d'agriculteurs et la production propre en maraîchage sur une parcelle à la ferme en cavale, ferme qui est implantée sur la commune de Vezin-le-Coquet, tout près de Rennes. Aujourd'hui, vous êtes en lien avec combien d'agriculteurs ? L'idée, c'est de proposer de la nourriture saine aux bénéficiaires, je ne sais pas comment vous les appelez, aux usagers qui viennent lors de distribution. Vous êtes en lien avec combien d'agriculteurs ?
Du coup, il y a beaucoup d'invendus qui viennent de la grande distribution. Et sinon, on est en lien avec quelques agriculteurs autour de Rennes, entre 5 et 10, j'en sais rien, quelque chose comme ça.
Et vous en cherchez d'autres ?
Nous, on est toujours preneurs et preneuses des invendus qu'ils peuvent avoir pour nos distributions, pour nos cantines, etc. Et c'est sûr que nous, on met l'accent sur le fait aussi que ce soit de la nourriture de qualité, quoi. Du coup, c'est toujours intéressant d'avoir des contacts de gens et aussi pour pouvoir travailler ensemble sur d'autres sujets, quoi.
On vous retrouvera samedi 23 et dimanche 24 septembre à la ferme en cavale, donc à Vezin-le-Coquet, où les participants, le public pourra découvrir votre activité de maraîchage à travers des chantiers le samedi et le dimanche. On vient, il n'y a pas besoin de s'inscrire.
Non, il n'y a pas besoin de s'inscrire. C'est entrée à prix libre pour toutes les personnes qui veulent venir et assister aux discussions l'après-midi. Voilà.
Sur le créneau 10h, 13h, samedi et dimanche. Alors vous n'êtes pas seul pour organiser la fête des récoltes ce week-end, puisqu'on retrouve, alors il n'est pas avec nous, mais il est bien à l'organisation, le collectif indépendantiste Dispar et le comité internationaliste Cyril Dan Roison, dont vous faites partie, Maria. C'est un comité local de soutien aux luttes au Kurdistan. Sujet compliqué, comment est-ce qu'on peut essayer de résumer la réalité de ces luttes aux auditeurs qui n'en ont jamais entendu parler ?
Bah, le Kurdistan, déjà, c'est un pays qui n'existe pas officiellement. C'est-à-dire que, en fait, c'est une colonie qui est colonisée par quatre États, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Les Kurdes sont un peuple sans État, le plus grand du monde, 40 millions de personnes environ. Et du coup, bah, suite à justement cette colonisation, ça fait environ 100 ans qu'il y a des luttes, des résistances qui ont lieu. Et il y en a une en particulier qui s'est concrétisée plutôt à partir des années 70, plutôt dans la partie turque du Kurdistan, la partie nord, qui s'est organisée autour du parti du PKK et ce qu'on appelle généralement plus largement le mouvement de libération du Kurdistan, avec énormément de structures de la société civile, une organisation aussi dans la diaspora. Et des forces armées de guérilla qui sont celles qui ont permis aussi, au moment de la révolution syrienne en 2011, dans le contexte du printemps des peuples, de reprendre tout un territoire du nord et de l'est de la Syrie des mains du régime syrien, qui a été éjecté de la région. Et donc après s'est posé la question, donc maintenant on a une autonomie, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la défend? Et c'est là aussi où se pose la question notamment agricole de la production, sachant qu'il y a à la fois un embargo, des menaces d'invasion de la Turquie, une situation de sécheresse et des problèmes en termes d'approvisionnement de l'eau qui viennent aussi de la Turquie. Et donc comment est-ce qu'on réussit à avoir une production agricole autonome sur ce territoire et comment on essaye aussi de sortir du système capitaliste.
Pour plus d'informations sur ces luttes kurdes, il y a un site internet cyrildan.org, S-E-R-H-I-L-D-A-N, si jamais je ne l'ai pas bien prononcé. On le redit, donc le peuple kurde, donc à la fois un peuple avec une culture et donc installé sur une région qui est à cheval sur la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Samedi 23 septembre à 18h, il y aura justement une conférence au sujet de la révolution au Rojava, sur plutôt la partie syrienne, hein, c'est ça ? Une région qui est désormais autonome, mais qui risque toujours l'invasion turque. Comment est-ce que vous expliquez l'intérêt de militants, donc plutôt de la région rennaise, pour ces combats qui, géographiquement en tout cas, semblent plutôt lointains ?
Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que les camarades du collectif Dispar, qui réfléchissent aussi à la question de l'autonomie ou de l'indépendance en Bretagne, pourraient faire un lien aussi sur cette idée de qu'est-ce qu'on fait quand on a été colonisé, quand on n'a pas une autonomie en tant que peuple, quand les langues, par exemple, ont aussi été interdites, réprimées. Par exemple, il y a beaucoup de camarades aussi catalans, basques, qui sont allés au Rojava. Il y a ça d'un côté. Je pense qu'il y a aussi, de fait, c'est une démarche internationaliste. Va y avoir une conférence à 15h sur la révolution espagnole, de la même manière qu'il y a des Bretons, des Rennais sûrement qui ont participé, qui ont rejoint les milices pour défendre la révolution espagnole contre le fascisme de Franco. Et bah, il y a des militants et des militantes françaises et bretonnes qui sont allés au Rojava aussi dans cette même idée pour défendre la révolution, que ce soit d'une manière armée ou d'une manière aussi dans les institutions civiles. Et du coup, là-bas, il y a un territoire qui est en autonomie et en fait, il y a tout à repenser. Comment est-ce qu'on organise la vie et donc tout ça, c'est des choses qui nous inspirent aussi, parce que qu'est-ce que le Rojava a mis en place en termes d'autonomie alimentaire, ça pourrait inspirer après le réseau de ravitaillement des luttes en pays rennais.
On peut aussi ajouter qu'à Rennes, il y a plusieurs associations de personnes kurdes, notamment exilés, puisque Rennes voilà, est quand même un territoire d'accueil des personnes exilées.
Oui, exactement. Et il y a le Centre démocratique kurde qui est mixte, et il y a aussi une assemblée des femmes, parce que je pense que ça, c'est aussi une des choses qui inspire beaucoup de l'extérieur dans cette démarche internationaliste, c'est la révolution des femmes qui a lieu là-bas, puisque voilà, il y a un système de coprésidence, par exemple, de toutes les institutions, et au niveau agricole aussi, il y a des coopératives agricoles uniquement de femmes, et c'est une femme qui va intervenir à la conférence samedi, qui est la coprésidente du comité d'agriculture et d'irrigation du nord et de l'est de la Syrie.
Et donc ça débutera à 18h, la fête des récoltes. C'est aussi un peu plus tôt dans l'après-midi, vous l'avez évoqué, une intervention sur la révolution espagnole de 1936. Et puis côté festif, un fest-noz à partir de 20h15 avec à l'affiche de la musique bretonne mais aussi de la musique kurde. Je cite les groupes qui défileront sur la scène: Digresque, Maïla Ag Anouk, Edjar et le duo Sparfel Agues. On écoute un extrait, un morceau de Digresque qui je crois date de 2017 dans une version un peu revisitée. C'est le morceau Zone à défendre.
C'est la ZAD, ZAD, terre paysanne, peuple de la terre, évolution partisane. C'est la ZAD, ZAD, terre paysanne, va dire au ministère qu'il n'y a pas d'avion dans la savane. Paraît que les bétonneuses sont face aux moissonneuses batteuses. Paraîtrait-il que Madame Vinci devient de plus en plus anxieuse. Il paraîtrait que les dirigeants ont des moutons dans la prairie. Et là faudra être méfiant car nous les loups sommes de sortie. Je suis dans leur froid quand ils s'attaquent aux barricades. Que leur matraque se ramollisse, y'a plus de cow-boys dans la brigade. Ils auraient préféré des petits voyous aux paysans qui seraient capables de tout lorsqu'il s'agit de garder son champ. Allez viens mon petit papy, va te conter une histoire. Histoire d'une lutte, un combat, une victoire. Une guerre, une bataille, une leçon à devoir. Ce soir papy va faire son travail de mémoire. Viens mon petit papy va te conter une histoire. Histoire d'une lutte, un combat, une victoire. Une guerre, une bataille, une leçon à devoir. Ce soir papy va faire son travail de mémoire.
Qu'on retrouvera sur la scène de la fête des récoltes samedi prochain, samedi 23 septembre, en soirée avec d'autres groupes. Retour donc en studio avec quand même un dernier mot, Antoine et Maria, sur le programme de cette fête des récoltes. Dimanche, le dimanche 24 septembre, la ferme Montcaval accueillera à nouveau un chantier maraîchage le matin sur lequel les volontaires sont les bienvenus pour filer un coup de main. Et puis l'après-midi à 15h, il y aura une table ronde avec un collectif plutôt de région parisienne, on le présente comme ça.
J'imagine qu'on peut dire ça, je pense que la plupart des gens viennent de Paris. Ouais, du coup ce collectif c'est le collectif Reprise de Terre, qui en fait est un collectif de différentes personnes, des chercheurs, des chercheuses, des paysans, des paysannes, etc., qui réfléchissent un peu sur les stratégies foncières pour récupérer de la terre au productivisme. Et, du coup différentes stratégies, qu'elles soient... qu'elles soient légales par des recours juridiques, etc., ou des stratégies d'occupation plus illégale, quoi.
De désobéissance civile, plutôt.
On peut dire ça comme ça.
Et on précise qu'il y aura un banquet le midi dimanche, donc à la ferme en cavale sur le territoire de Vezin-le-Coquet. Et c'est le moment où je me tourne vers Olivier Bertin, l'un des sociétaires du GAEC Biotope. Vous connaissiez le réseau des ravitaillements de lutte du Pays Rennais ?
Oui, on a pu parfois participer aux collectes, plutôt de manière ponctuelle. On n'est pas des donateurs réguliers. Mais on est bien sûr très amicaux avec ce réseau.
Vous, votre ferme, elle est installée à Vignoc, on est à 20 minutes au nord de Rennes. Une ferme qui va fêter ses 10 ans samedi 30 septembre, c'est dans une semaine. Rendez-vous pour le public au lieu dit La Trubaillère de 14h jusqu'au soir. On va arriver au programme. Il s'est monté comment ce GAEC pour Groupement Agricole d'Exploitation en Commun ?
À l'origine, c'était un ensemble d'amis qui ont décidé de s'installer sur, de créer une ferme avec des ateliers un peu différents d'aujourd'hui, c'était du maraîchage et de l'apiculture. Avec les évolutions, il y a eu des entrées, des sorties, des arrêts, des reprises. Aujourd'hui, on est maraîcher et paysan boulanger.
Vous étiez issu du milieu rural ou pas du tout ?
On est plutôt profil néo-ruraux, bien que à notre génération, on avait à peu près tous un grand-père agriculteur.
Aujourd'hui, vous êtes quatre dans le GAEC, trois associés et il y a une certaine Charlotte, je crois, en
c'est
plus.
Ça. On est donc trois associés pour deux ateliers. Donc on est deux sur le maraîchage, Xavier et moi, et donc deux personnes au fournil, Adeline et Charlotte. Et donc, en plus de ça, je m'occupe de cultiver le blé et moudre la farine.
Qui va ensuite au fournil.
Qui va ensuite au fournil, c'est ça.
Vous nous décrivez un peu votre ferme, la surface que vous avez. Je crois qu'on peut dire qu'elle est assez, assez modeste. Et puis, donc, sur ses choix d'activité, le maraîchage et puis du blé jusqu'au fournil, l'idée, c'était de penser à un projet un peu global.
Oui, exactement. Donc, on est une ferme de petite surface. On est actuellement à peu près 13 hectares. Sur lequel du coup on a une partie d'à peu près 3 hectares pour le maraîchage, le reste en prairies et grandes cultures. Les surfaces qu'on a aujourd'hui sont pas suffisantes pour avoir une rotation correcte et produire assez de blé pour le pain, donc on en vient à faire des échanges avec des collègues, à acheter du blé à d'autres et ainsi de suite. Le blé provient rarement d'une parcelle qui est à plus de 10 km de la ferme, quoi.
Ça veut dire que vous recherchez justement des terres et que c'est peut-être pas facile, non ?
Exactement. Moi, je suis arrivé dans le GAEC il y a 5 ans et une partie du plan de mon arrivée, c'était de trouver des terres supplémentaires pour avoir un schéma de grande culture plus cohérent. Et assez rapidement, on a découvert ce qu'était la recherche de foncier et puis les mécanismes qui étaient à l'œuvre. Et mon association s'est passée sans arriver de nouvelles terres.
Ce qui est particulier, c'est que donc, vous avez plutôt une surface assez modeste et pourtant vous la jouez quand même collective. Vous accueillez d'autres projets sur votre ferme. J'ai entendu parler de pâtes, de lactofermentation et de pépinières.
Exactement. Donc c'est des projets qui sont peu consommateurs de foncier, puisque la pépinière est installée sur une parcelle de 6000 m² qui n'avait pas un potentiel agronomique extraordinaire, et donc plutôt privilégier une nouvelle personne, une nouvelle activité, une nouvelle dynamique plutôt qu'une potentielle production compliquée. Puis les copains des légumes lactofermentés et des pâtes, eux utilisent un laboratoire qui est dans le bâtiment. Donc pour le coup, il n'y a pas de relation, ils n'ont pas d'utilisation directe du foncier.
Ils sont vraiment sur de la transformation. Il se trouve que la semaine dernière, avec le média d'investigation Splan, on a parlé des tensions autour du foncier agricole et du difficile renouvellement des générations. Avec en plus de ça, là, des complications, l'effet de la crise sanitaire, de la crise dans le secteur de l'agriculture biologique et l'inflation. Comment est-ce que vous vous sortez des 10 ans, là, vous fêtez 10 ans d'existence et comment vous abordez la décennie à venir ?
Alors, pour faire un petit retour en arrière sur le foncier, nous, on a bénéficié d'une politique forte de la communauté de communes du Val-d'Illobinier ainsi que d'un dispositif de la SAFER qui s'appelle le portage foncier. Donc c'est des terres qui ont été extraites des circuits habituels d'échange de terres, non sans difficulté de la part des institutions, pour ensuite du coup les mettre à disposition d'un projet pour des personnes hors cadre familial avec des pratiques à visée plutôt environnementale. Ensuite, les terres, nous, n'ont pas été achetées en propre, c'est l'association Terre de Liens qui en est propriétaire, et donc nous sommes locataires de ces terres, et avec Terre de Liens, on sécurise la visée plus large que notre génération sur l'utilisation de ces terres.
Mmh. Et économiquement, vous en sortez comment là?
Alors économiquement, nous on a un objectif de justice sociale qui est un SMIC horaire. Donc à partir du moment où on va se payer 1200 euros par mois, on va viser 35 heures par semaine. Avec des activités comme agricoles qui sont saisonnalisées, on a plutôt tendance à lisser sur l'année. Et cet objectif, on n'en est pas loin au bout de 10 ans, suite à la fois une construction très efficace sur les premières années et ensuite peaufiner le projet ces dernières années.
Vous avez été impacté là par les différentes crises successives, voire qui se sont un peu superposées?
Alors, on a eu des variations. Pour nous, la crise du Covid a plutôt été un gros boost. Après, c'est vrai que depuis quelques temps, la baisse de la fréquentation des magasins spécialisés bio, qui faisaient partie de nos débouchés, on va dire, ont pu impacter nos stratégies de vente. On a des ventes directes et des marchés et aussi des épiceries de collègues à qui on vend qui sont très stables et même en légère augmentation.
On arrive au programme de la journée du samedi 30 septembre avec plein d'animations pour fêter les 10 ans de la ferme du GAEC Biotope. Ça commencera à 14h avec tout l'après-midi déjà un marché de producteurs. Pour les enfants, je crois qu'il y aura des comptes. Et puis on peut peut-être s'arrêter sur cette proposition, un rallye à la ferme en partenariat avec un groupement dont vous êtes membre, c'est ça ?
Exactement. Donc on profite des 10 ans de la ferme pour faire un après-midi festive et aussi avec une visée de vulgarisation sur nos pratiques et sur nous et ce qu'on fait chez nous. Et donc on est adhérent à AgroBio 35, qui est le syndicat des agriculteurs bio en Ille-et-Vilaine, qui n'est pas la seule association à défendre une agriculture durable. Et donc avec AgroBio a lieu sur la ferme, ce qui s'appelle le rallye à la ferme, et c'est destiné aux enfants. C'est une déambulation sur la ferme autour des cinq sens et avec des petits panneaux et des échanges avec l'animatrice.
Et on le dit, il n'y a pas besoin de réserver sa place. Les enfants peuvent venir directement sur place pour y participer. Pour les plus grands, j'ai noté des balades naturalistes à 14h30, 16h et 17h30. Et puis des ateliers, là aussi organisés à plusieurs reprises, plutôt sur la fin d'après-midi, et organisés par Gaëlle Rubéillon, qui est spécialisée, c'est ça, dans l'accompagnement, non, pour changer nos modes de vie.
Exactement. Gaëlle Rubéillon travaille à son compte sur toutes les questions d'agriculture viable et vivable, et notamment sur tout l'axe bilan carbone. Et donc, elle sait animer un atelier qui s'appelle « Inventons nos vies bas carbone ». Et comme ce sont des sujets qui, au jour le jour, nous préoccupent, elle organise trois ateliers d'une demi-heure qui vont plutôt être une première approche de bilan carbone de nous toutes, nous tous, avec un axe agriculture.
Et pour ces ateliers, ça fonctionnera donc au chapeau pour les participants. Et la journée, elle se terminera en musique avec Bloco Loco à l'apéro et Flower Toaster en soirée, suivi d'un DJ set. Merci à tous les trois, Olivier, Antoine et Maria. Je redonne les dates de vos événements pour la fête des récoltes à Vezin. C'est ce week-end, les 23 et 24 septembre. Plus d'infos en ligne sur le site expansive.info. Et puis pour les 10 ans du GAEC Biotope, c'est samedi 30 septembre du côté de Vignoc. Et là aussi, il y a un site internet biotope.fr. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
À Après l'interview du jour, place à un reportage. Vendredi 22 septembre à 20h30, l'ADEC, Maison du Théâtre Amateur, accueillera sur scène la troupe de La Cloche. La Cloche, c'est une association qui lutte contre l'exclusion des personnes en situation de précarité et qui présentera là la pièce Sans étiquette pour partager avec le public le vécu des personnes à la rue. Les tarifs vont de 4 à 6 euros. Pour plus d'infos, il y a la plateforme solidarennes.bzh. Allez, reportage réalisé au moment d'une répétition dans la salle des ombres électriques.
Plein de concerts, donc voilà.
Ouais.
Pour jouer, quand tu joues uniquement, ça va. Mais après, c'est là, on est sur scène.
Bah oui,
théâtre,
c'est
pas la même chose. C'est pas comme un concert. Mais... Ouais. 3, 4.
Mouvement en cadence, tu chantes, tu danses.
Moi, je m'appelle Manon, je suis coordinatrice de l'association La Cloche.
Moi, je m'appelle Arnold, je suis bénévole à La Cloche, à Maraude, et je fais du théâtre aussi.
Moi, je suis OCB, bénévole à La Cloche et conseil d'administration de La Cloche. Quand j'ai rejoint La Cloche, à la base, on m'avait proposé pour une pièce de théâtre, et après, j'entendais qu'ils avaient besoin de bénévoles, donc j'ai décidé donner un peu de mon temps, vu que je connais beaucoup la rue, vu que je l'ai pas mal vécu, et c'est une très bonne expérience que je vis actuellement.
Moi c'est Julien, bénévole à La Cloche. On m'a dit viens voir la pièce et puis au final je me suis fait embarquer dans la pièce. Et c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps du théâtre, donc ça me plaît beaucoup.
Et moi je suis bénévole aussi dans pas mal d'associations en fait, voilà. Et je m'occupe que de la partie musicale en fait, voilà. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé en fait, c'est de participer musicalement à une pièce de théâtre et non pas faire des concerts avec des musiciens uniquement.
Votre prénom ?
Serge.
Du coup, on a commencé le théâtre en 2021 avec Alexis Fichet.
Alexis Fichet qui est auteur et metteur en scène rennais.
Oui, qui a coécrit la base de la première pièce parce que le pauvre, on a bien modifié et transformé ses écrits pour se l'approprier au fur et à mesure qu'il y avait des nouvelles personnes. Et donc, sur 2022, on a joué. Dans six lieux.
Comme on va dire l'Hôtel Pasteur, au Bacchus, à l'Agrocampus. Donc c'était une expérience agréable à chaque fois parce que même si ça a beaucoup changé par rapport à certains rôles, c'est toujours une bonne équipe qui arrive à s'entendre, à s'autocritiquer et à voir ce qui ne va pas. Et je trouve ça intéressant.
Et donc là, on reprend 2023 avec le nouveau groupe, quoi.
Là, il manque deux personnes, en fait, voilà, donc, mais jeudi, elles seront là, pour l'avant-dernière répétition, en fait, avant le spectacle à DEC.
Maintenant, il faut qu'on charbonne le texte, hein.
Jeudi, vous répétez sans les feuilles.
Oui, sans les feuilles, jeudi. Ouais.
Moi, du coup, c'était ma première expérience de théâtre, comme m'a proposé, j'ai voulu déjà essayer pour rigoler un peu, pour voir ce que c'était vraiment cette ambiance, parce que à la rue, c'est un peu un théâtre ouvert qu'on fait. C'est un sujet qui me touchait beaucoup, parce que il y a certaines parties où moi, je l'ai vraiment vécu. Et je sais que ça représente bien un peu comment ça se passe dans la rue. Et je trouve que la pièce est agréable, c'est une très bonne ambiance. Et j'espère qu'elle va continuer au maximum.
Comme dans Sans étiquette, ce sont des histoires en lien avec cette situation de vie qui se croisent. Est-ce que certains sont partants pour me raconter une histoire liée à la rue ?
Il y en a une, justement, celle qui est dans la pièce. Là, c'est un long voyage que j'ai fait. Parce que moi, si j'avais le choix entre ou aller à la prison pour mes conneries, ou alors faire mon armée. Donc justement, j'ai préféré choisir l'armée. À la base, je viens des banlieues de Paris. Après avoir fait à peu près le tour de la France et quelques pays d'Europe, j'ai dû trouver un endroit où aller. J'ai décidé de venir en Bretagne, justement, parce que c'était Belfort, gendarmerie la plus proche. Donc je suis venu en Bretagne.
Faire votre service militaire ?
Moi, fermer trois jours déjà où je me suis fait réformer P4 à l'origine. Fou dangereux.
Ah, c'est un dangereux, lui.
Et c'est là que ça m'a permis à la fois de me caser, parce que j'ai rencontré madame, j'ai mon enfant. Donc, c'est 20 ans que grâce à, on va dire, à cette histoire de voyage, inconsciemment, ça m'a donné à réfléchir et ça m'a donné l'envie de faire la conversion de nos futurs avec un futur. Et là, justement, ça m'a permis d'évoluer. Donc j'ai eu mon logement, j'ai eu machin. Et le fait que c'est très dur de se réadapter à un logement une fois que tu n'as plus de logement pour diverses raisons. C'est reprendre goût à la vie, reprendre l'habitude de faire le sel, reprendre l'habitude de manger et dormir à des heures régulières. C'est assez important. Et le fait de savoir que moi, j'ai eu besoin en temps et en heure de donner mon temps comme ça, je sais que ça pourra peut-être aider et soutenir d'autres personnes à pouvoir vouloir s'en sortir. Comme disait mon grand-père, il n'y a rien tel qu'un feignant qui se mette au travail pour que le travail avance.
Mouvement en cadence, tu chantes, tu danses. Contagieux par sa présence, tu chantes, tu danses. Il crie la vie, respire la vie, vibre à l'unisson. De l'harmonie des sons.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette pièce? Qu'est-ce que vous y mettez, vous?
Je dirais qu'elle raconte des expériences de vie, en fait. C'est du vécu. Même cette porte imaginaire, là, elle est, en réalité, elle est réelle. C'est une réplique qu'il y a dans la pièce, sur une porte imaginaire. Justement, quand Julien fait la manche assis par terre dans la pièce et que quelqu'un passe... trop près, justement, de sa porte imaginaire. Voilà, c'est qu'il n'est pas calculé. Et cette pièce met bien en évidence toutes ces petites choses-là que finalement les gens de la rue vivent, mais que les gens qui ne sont pas à la rue et qui passent devant ne voient pas.
Le manque de respect.
Voilà, donc c'est un témoignage. Moi, j'ai été à la rue aussi, pas longtemps comme au CB, mais j'y suis allé quand même. Mais je peux vous dire que juste vous passez juste deux nuits déjà, c'est pas mal. Alors pour ceux qui y sont depuis des années, je leur tire mon chapeau parce que voilà, c'est des expériences de vie très difficiles et on essaye de mettre en avant ces expériences avec tout ce qu'elles comportent, bah de bon, de pas bon, voilà.
Et je trouve qu'elle nous ressemble aussi, la pièce, parce qu'elle est un peu loufoque des fois. Et en fait, je trouve qu'on voit vraiment le processus de création qui a été en fait des longues heures de discussions, d'échanges, de partir dans des délires, et qu'on retrouve bah, dans la pièce de théâtre où bah, peut-être les gens ils vont se dire « mais ils sont partis loin ». Mais en fait, ça montre aussi tout ce processus de co-création qui est hyper important dans tout ce qu'on fait à la cloche et qui, là, je trouve, se ressent bien en fait.
Sans étiquette, à la base, on l'a choisi parce que souvent, quelqu'un qui est à la rue, tu mets toujours une étiquette. Quand quelqu'un qui tape la manche ou quoi que ce soit, tu le vois avec une bière, tu vas dire c'est un alcoolique. Alors c'est un peu de l'amalgame qui est là. On veut faire justement comprendre qu'il faut casser les préjugés à tort et à travers que tout le monde dit. Et je trouve que c'est un nom qui lui va très bien.
On répète le mardi après-midi, tout le temps aux ombres électriques. C'est un peu la maison ici. C'est d'ailleurs ici qu'on a fait nos deux premières représentations parce que bah, c'est clairement un lieu atypique et un lieu qui est hyper chouette, qui est hyper ouvert, qui donne l'accès à la culture à vraiment tout le monde. Je pense qu'il y a un petit truc de petite famille de théâtre avec ces lots de famille, hein, donc le positif et le négatif, j'ai pas envie aujourd'hui, et je pense qu'il y a tout ça.
Là, on est en fait au fond d'une rue, au numéro 10 de la rue des 30, dans une petite, modeste salle de spectacle qui a été aménagée. Je sais pas si l'un de vous peut me décrire un peu à quoi ça ressemble en termes d'ambiance autour de nous.
En fait, c'est un ancien garage qui est un peu... composé de sièges de cinéma récupérés de l'ancienne Arvor, je crois. C'est un peu fait de briques et broc.
Ouais, c'est le côté un peu atypique et underground, en fait.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Et je dirais que même cet endroit, en fait, il nous a beaucoup aidé pour cette pièce, en réalité, de par son aspect. Ici, c'est gratuit. Mais si on avait payé 20€ de l'heure pour des répétitions... dans des salles magnifiques, est-ce que la pièce aurait le même cachet? C'est pas sûr, parce que voilà, c'est une pièce qui parle des gens de la rue, et ici on est dans un bric-à-broc, donc ça nous correspond bien.
On va lancer des nouveaux ateliers à partir d'octobre, atelier son et clap, en partenariat avec la web radio R22, et le vidéobus. Du coup, les ateliers sont sur inscription et le but, c'est de faire des créations visuelles et sonores. En tout cas, il y a toutes les informations sur nos réseaux sociaux. La cloche Bretagne sur Facebook et la cloche Braise sur Instagram.
De l'harmonie des sons.
Budos Band et son morceau Devil Doesn't Dance sur Canal B, un titre issu de l'EP Frontier's Edge. C'est sorti le 28 juillet dernier chez Diamond West Records. Et alors ce groupe instrumental américain fou d'afro-soul, il a été créé en 2005 mais il sort là son premier EP avec un nouveau et son propre label. Vous êtes en train d'écouter L'Arène à l'émission d'info locale de Canal B, à écouter sur le 94.0, sur la radio numérique terrestre, le DAB+, si vous en disposez dans votre véhicule flambant neuf, ou bien sur canalb.fr. On poursuit avec la chronique bimensuelle de la CIMADE. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Lucie, tu es intervenante juridique au centre de rétention administrative de Rennes pour cette association qui est la CIMADE, association de soutien aux personnes exilées. Toutes les deux semaines, vous venez en studio nous donner à entendre ce qui se passe entre les murs de ce centre de rétention administrative avec aujourd'hui un témoignage, c'est celui de David, de nationalité géorgienne, qui est enfermé au centre de rétention administrative de Rennes depuis le 17 août 2023. Je suis arrivée en France il y a 3 ans avec ma famille, ma femme et mes 3 enfants mineurs. Je ne suis pas arrivée en France pour avoir de l'argent ou accumuler de la propriété. J'ai pris cette décision de venir en France pour pouvoir m'installer dans un pays humain, démocratique et tolérant. Je veux que mes enfants puissent grandir dans ce pays-là et dans ces conditions.
Nous avons traversé des moments difficiles en arrivant en France, puisque nous avons vécu 3 mois à l'extérieur, sous une tente. Nous n'avons pourtant pas baissé les bras, et grâce à une association de parents d'élèves de l'école de mon enfant, on nous a donné la possibilité d'avoir une maison, où mes enfants vivent actuellement. Ensuite, il m'est arrivé quelque chose, qui m'a fait me placer en prison pendant 4 mois et demi. Pendant ce temps, je n'ai eu aucun contact avec mes enfants, à cause de la barrière de la langue. Puisque je ne parlais pas français, je n'ai pas pu communiquer avec l'administration de la prison. Et donc je n'ai pas pu voir ou entendre la voix de mes enfants. Je n'ai pas pu savoir comment ils allaient, s'ils avaient faim ou pas, s'ils allaient bien ou pas. Le 2 ou le 3 août, je me suis vue notifier une OQTF par la préfecture, tout en m'expliquant que j'avais le droit de faire un recours pendant 48 heures. Mais comme je ne parle pas français et je ne savais pas comment faire, j'ai demandé à l'agent de la préfecture de m'aider à écrire sur un papier, que je voulais faire un recours. L'agent de la préfecture m'a dit qu'il ne pouvait pas faire cela, que c'était pas son travail, et que les gens comme moi ne devaient pas rester en France. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti qu'il était raciste avec moi. Je me suis débrouillée moi-même pour écrire un recours. Mais apparemment, comme je n'ai pas rédigé le recours correctement, l'administration a pensé que je faisais un recours contre la détention ici et pas contre mon OQTF, donc le recours n'a pas été enregistré. Cela me semble assez imbécile, car je sortais de toute façon dans 2 semaines, donc pourquoi j'aurais fait un recours contre ma détention ? Je trouve que c'est injuste de traiter le même dossier d'une manière différente, puisqu'il y a 1 an, j'ai déjà été placée en centre de rétention et j'avais été libérée par le juge car j'avais des enfants en France. Alors que là, je suis au centre de rétention depuis 10 jours et ils veulent me renvoyer en Géorgie. En Géorgie, je n'ai personne. Ni mes frères et sœurs, ni mes parents, ni mes enfants. Toute ma famille se trouve en France et je n'ai donc aucune attache là-bas. Mes enfants sont déprimés. J'ai eu l'occasion de leur parler depuis. Ils ne m'ont pas vue depuis 5 mois. Ils sont obligés de voir un psychologue, surtout l'aîné. Je veux être vue par le juge. Je veux qu'il m'écoute. Puisque je considère que je suis placée ici en centre de rétention sans justification valable. Je pense que ma présence ici est illégale et c'est pourquoi j'entame une grève de la faim, puisque je me sens seule contre cette machine de l'État. C'est la seule possibilité pour moi de faire entendre ma voix. Pour vous expliquer un peu l'injustice et le traitement différent des personnes ici, il y a une personne qui a été libérée car il n'y avait pas eu d'interprète, alors que moi je n'ai jamais eu le droit à un interprète pendant toute la procédure. Je suis quelqu'un qui n'a jamais volé, je n'ai jamais consommé de la drogue, je n'ai jamais fumé de la drogue. Je suis quelqu'un qui travaille depuis mes 13 ans. Donc l'agent de la préfecture n'a pas à dire que quelqu'un comme moi ne doit pas rester sur le territoire français. C'est la rentrée scolaire et je veux déposer mes enfants à l'école. Mais la préfecture décide, pour une raison très peu compréhensible, de me placer ici depuis 10 jours. Quand je suis sortie de prison le 17 août, la préfecture avait réservé un vol pour moi. Mais ils n'auraient pas trouvé de policier pour m'amener jusqu'à l'aéroport. Et c'est pourquoi je n'ai pas pu être renvoyée en Géorgie. Je ne peux pas retourner là-bas, car j'ai des soucis politiques là-bas. Je ne serai pas en sécurité en Géorgie. C'est une vérité, je ne peux pas y retourner. Je ne compte pas quitter la France. C'était ma décision de m'y installer avec mes enfants, pour pouvoir les éduquer en respectant les droits fondamentaux, pour qu'ils mènent une vie adéquate à ces droits et qu'ils puissent faire quelque chose en échange pour la France. À partir d'aujourd'hui, j'entame une grève de la faim, sans date limite, et j'espère que je trouverai la justice.
N'ayant plus aucun recours juridique, l'expulsion de David risque d'être menée à bien prochainement par la préfecture, privant ses enfants de grandir aux côtés de leur père. Retour en studio après cette chronique de la CIMAD, Association de soutien aux personnes exilées. On va terminer avec la recommandation du jour, car chaque jour, on termine avec des conseils d'événements à vivre, parfois de choses à écouter, lire ou voir. Aujourd'hui, on annonce des portes ouvertes d'ateliers d'artistes à Rennes et dans la métropole. Il se passe donc aussi des choses du côté de Passé, Bécherel ou encore Chartres de Bretagne. Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre, 64 créateurs locaux ouvrent leurs ateliers au public, des tailleurs de pierre, des illustrateurs, des peintres, photographes, mais aussi des designers ou même des sculpteurs. Le programme complet, il est à retrouver en ligne sur le site metropole.rennes.fr. L'occasion d'évoquer rapidement le soutien de la municipalité aux artistes rennais. En effet, 37 ateliers, dont 6 avec des logements, sont mis à leur disposition avec un loyer modéré sur une durée maximale de 3 ans. C'était le conseil du jour. La reine, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.